Et tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous. En Inde, le gouvernement nationaliste hindou reprend en main la région du Jammu et Cachemire, région rebelle qui bénéficiait d'un statut d'autonomie depuis 70 ans. New Delhi vient d'annoncer la suppression de cette disposition constitutionnelle. Ce n'est pas sans risque géopolitique. Nous serons en direct avec notre correspondant Sébastien Farcy au début de ce journal. Tension toujours vive également à Hong Kong ce midi. La police a de nouveau tiré sur des manifestants qui tentaient de bloquer une autoroute. Grève générale aujourd'hui qui paralyse toute la région administrative spéciale. Reportage de notre envoyé spécial Zifan Liu dans un instant. Une nouvelle conséquence de la guerre commerciale entre Pékin et Washington. La Chine laisse dévisser sa monnaie d'1,4%. Analyse à suivre du spécialiste de l'Asie François Godeman. Donald Trump attaqué par l'opposition démocrate après les deux fusillades de ce week-end. Et puis en France, actualité sociale. 15 jours après l'annonce d'un plan social dans les magasins Tati, les syndicats ont été reçus ce matin par la ministre du Travail. Et tout à l'heure, dans la grande table des thèmes, Maëlys Bessery.
On va parler de Marilyn Monroe aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa mort et c'est aussi l'exposition que lui consacre la galerie Joseph. Et on fera également le portrait du cinéaste russe Kantemir Balagov et de son film Une grande fille, primé à Cannes.
Merci Maëlys et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
45. C'était une vieille promesse de campagne du Premier ministre hindou Narendra Modi, triomphalement réélu au printemps dernier pour un deuxième mandat. New Delhi a révoqué ces dernières heures l'autonomie constitutionnelle de la région du Jammu et Cachemire. Ce statut daté des débuts de la République fédérale indienne il y a 70 ans. C'est donc une révolution qui s'amorce. Sébastien Farcy, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de RFI pour France Culture en direct de New Delhi. C'est encore la confusion sur place au Jammu et Cachemire. Les Cachemiriens sont coupés du monde ce midi. Les moyens de communication sont bloqués par Delhi. Les écoles sont aussi fermées. Sébastien, le décret présidentiel est sur le point d'être appliqué. Qu'est-ce que cela va changer ?
Eh bien, c'est une vraie révolution, vous le dites, pour le Cachemire, car depuis son intégration dans l'Union indienne, la région bénéficie d'un très large statut d'autonomie. Les lois votées par le Parlement de New Delhi, par exemple, ne s'appliquent pas directement au Cachemire en dehors des domaines de la défense, des affaires étrangères, des finances et des communications. Pour les autres secteurs, eh bien, ces textes doivent être revotés par le Parlement de Srinagar. Même le code pénal est différent dans cette région. Pour beaucoup de partis indiens, ce statut d'exception est une anomalie et le gouvernement veut donc maintenant y mettre fin à travers ce décret présidentiel. Le Cachemire deviendra alors un territoire de l'Union, ce qui veut dire qu'il gardera un parlement, mais que New Delhi obtiendra un très large pouvoir de décision directe. Les résidents des autres régions du pays pourront également être employés dans l'administration et acheter des terres au Cachemire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les changements sont donc profonds et radicaux.
L'annonce de ce changement de statut pour la région du Cachemire indien a été faite par le ministre de l'Intérieur indien au Parlement à New Delhi et les réactions de la classe politique indienne ont été immédiates.
Oui, tout à fait. À New Delhi, ici, alors la majorité des parlementaires semble approuver cette réforme, mais au Cachemire, cela sonne comme une trahison. Les partis régionaux affirment que cette disposition d'autonomie représentait le cordon ombilical qui reliait l'Inde au Cachemire. Le rompre signifie pour eux que le Cachemire n'a plus aucun lien légal avec New Delhi et que l'Inde devient ainsi une force d'occupation. Cette interprétation est contestée, mais ce qui est sûr, c'est qu'une frange de la population du Cachemire lutte depuis des décennies pour bénéficier d'une autonomie encore plus large, voire d'une indépendance. Cette décision pourrait donc raviver les flammes de l'insurrection et le gouvernement le sait. Depuis une semaine, il a déployé près de 50 000 militaires supplémentaires dans la région pour y faire face, en plus des 700 000 présents de manière permanente.
Merci Sébastien Farcy, vous étiez en direct de New Delhi, vous êtes le correspondant de RFI pour France Culture et j'ajoute que le Pakistan a condamné la décision du gouvernement indien, il la qualifie d'illégale et prévient qu'il emploiera tous les moyens pour la dénoncer. Situation également tendue ce midi à Hong Kong. Quatrième jour consécutif de manifestation à l'origine contre un projet de loi d'extradition qui aurait placé les habitants de cette région administrative spéciale à la portée des tribunaux chinois et qui se mue en cri pour plus de démocratie. Ce lundi, la mégalopole est paralysée par une grève générale avec d'importantes répercussions dans les transports. La chef de l'exécutif local, Carrie Lam, s'est exprimée ce matin contre les protestataires qu'elle accuse de vouloir renverser Hong Kong. C'est un reportage de notre envoyé spécial, Zifan Liu.
Pour la première fois de leur histoire, des dizaines de milliers de Hongkongais ont participé à une grève générale avec pour but de faire céder leur gouvernement. Mais dans une ville où la loi ne protège pas les salariés lors de manifestations politiques, beaucoup sont prêts à prendre un risque pour le futur de Hong Kong.
Même si je sais qu'il n'y aura pas de conséquences directes sur mon contrat, certains dans mon entreprise supportent le gouvernement et ils peuvent vous apporter des problèmes sur n'importe quoi, comme sur les promotions ou des revenus de performance. Oui, c'est une peur, mais je me dois d'être ici, c'est la bonne chose à faire.
Avant cette forte mobilisation aux quatre coins de l'archipel, la chef de l'exécutif Carrie Lam est enfin sortie de son silence dans la matinée. Elle a incriminé des manifestations qui, selon elle, mettent l'archipel en danger, mais ce n'est pas l'avis de cette participante.
Je pense que les gens qui mettent Hong Kong en danger ne sont pas les protestataires, mais plutôt la police. Depuis le début du mouvement débuté il y a 2 mois, vous pouvez observer que les manifestants sont pacifiques. Nous voulons juste que le gouvernement réponde à nos demandes.
En pleine journée, plusieurs tirs de gaz lacrymogène ont déjà été lancés par les policiers en tenue anti-émeute, notamment dans le quartier Admiralty, le centre politique de la ville. La tension risque donc de perdurer sur Hong Kong jusqu'à ce soir, à la fin des rassemblements autorisés.
Reportage de notre envoyé spécial Zifan Liu. La Chine qui a laissé sa monnaie, le yuan, dévisser face au dollar ce matin. 7 yuan s'échange désormais contre un seul dollar, un seuil qui n'avait pas été atteint depuis 9 ans. Ce décrochage fait suite à la décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane sur quasiment tous les produits chinois à partir de septembre prochain. Faut-il y voir un lien et lequel? Écoutez l'analyse de François Godemant. Il est spécialiste de la Chine et conseiller Asie à l'Institut Montaigne.
Il est évident que c'est une réplique au tarif de Trump. Il y a une chose extrêmement facile, au moins en apparence, pour la Chine, c'est d'évaluer pour contrer le renchérissement des marchandises à l'exportation, notamment aux États-Unis. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que la Chine avait peu de répliques directes aux mesures de Donald Trump, parce que justement parce qu'elle vend beaucoup plus aux États-Unis qu'elle ne lui achète, elle est forcément plus vulnérable. Elle ne peut pas sanctionner, comme l'a fait Donald Trump maintenant, les ventes de 500 milliards de marchandises, tout simplement parce que les États-Unis ne vendent pas et de loin 500 milliards à la Chine.
On ne voit pas vraiment d'issue à cette guerre commerciale finalement entre Washington et Pékin. Comment les choses peuvent évoluer à l'avenir?
Moi, je pense que Donald Trump a réellement surpris la Chine à plusieurs reprises. C'est peut-être la plus grande différence avec ses prédécesseurs, que cette capacité pour le meilleur et pour le pire de changer de pied, si j'ose dire, d'un seul coup, et d'alterner le chaud et le froid. Je pense qu'il y aura peut-être des armistices, si j'ose dire, des arrangements temporaires sur certains aspects, mais fondamentalement, je crois qu'on a changé d'époque dans les relations entre les États-Unis et la Chine.
Des propos recueillis par Ilan Malka. Donald Trump qui doit s'exprimer depuis la Maison-Blanche sur un tout autre sujet cet après-midi. Il y a eu 2 fusillades ce week-end aux États-Unis. Elles ont fait près de 40 morts et des dizaines de blessés à El Paso, au Texas tout d'abord, puis à Dayton, dans l'Ohio. Alors que le tireur d'El Paso est inculpé pour crime de haine et que les autorités fédérales parlent de terrorisme intérieur, Trump va tenter de se défendre après les attaques de l'opposition démocrate. L'opposition qui l'accuse d'inciter à la haine et au racisme, Grégory Phillips.
La haine n'a pas de place dans notre pays, a dit hier soir Donald Trump. Mais plusieurs démocrates dénoncent la responsabilité du président dans le massacre de samedi, perpétré par un jeune homme de 21 ans, adepte de la théorie du grand remplacement et qui a expliqué aux enquêteurs du FBI qu'il voulait tuer un maximum de Mexicains. Beto O'Rourke, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, originaire d'El Paso, a dit ceci alors qu'il participait hier à une veillée de prière à propos de Trump.
Il a dit que les migrants mexicains étaient des violeurs et des criminels. Ce n'est pas qu'il tolère le racisme, il le promeut. Ce n'est pas qu'il tolère la violence, c'est qu'il incite au racisme et à la violence dans ce pays.
Carlos, un habitant d'El Paso, pense à peu près la même chose.
Oui, c'est vrai. Avec la position qu'il occupe, ses mots ont une signification importante. Ce qu'il dit peut influencer des gens, surtout les esprits les plus jeunes, facilement influençables.
Tout à l'heure, depuis la Maison-Blanche, Donald Trump devra dire ce qu'il compte faire pour réduire le nombre de ces fusillades. Il faudra voir aussi s'il qualifie ces 2 tueries de terrorisme intérieur et s'il dénonce les théories des suprémacistes blancs qui ont visiblement inspiré le massacre d'El Paso.
Le reportage de notre envoyé spécial à El Paso, Grégory Phillips. En Libye, une frappe aérienne vient de faire plus de 30 morts dans le sud du pays, à Mourzouk. Une information rapportée par des habitants. Des habitants toujours en proie à la guerre civile. Après 4 mois d'affrontements meurtriers, les troupes du maréchal Haftar piétinent aux abords de Tripoli, la capitale libyenne. Les forces loyales au gouvernement de Fayez al-Sarraj, reconnues par l'ONU, toujours résistent pied à pied. Pour Nadim Houri, le directeur du think tank Arab Reform Initiative, il n'y aura pas de victoire militaire d'un camp sur l'autre. Seules les négociations sous l'égide de l'ONU permettront une sortie de crise durable.
Malheureusement, et je pense là, il y a une vraie responsabilité des appuis du général Haftar et peut-être la France, qui ont pensé qu'il peut y avoir une solution militaire, que Haftar va pouvoir, parce que c'est ce qu'il leur a vendu, et ils l'ont cru, je ne sais pas pourquoi, qu'il pourrait avoir une victoire rapide sur Tripoli, chose qui ne s'est pas faite. Il faut revenir vite aux négociations. Aujourd'hui, la seule solution, ce sont les négociations des Nations Unies. Parce que sur le terrain, Haftar ne va pas perdre complètement, puisqu'il y a des appuis régionaux très importants et des appuis étrangers, dont la France. Et aujourd'hui, le gouvernement de Sarraj, donc le gouvernement qui est reconnu par les Nations Unies, ses alliés, notamment les Turcs et le Qatar, ont montré que si on ne prend pas leur point de vue en considération, ben, ils sont prêts à faire, comme les autres alliés de Haftar, ben, d'envoyer des armes. Et donc, on est en train de voir une espèce de course à l'armement, sans vision politique et sans accord. Donc, il faut vite revenir aux négociations mandatées par les Nations Unies. Malheureusement, je pense qu'il y a encore des Européens qui pensent qu'il peut y avoir une solution militaire. Et là, on est voué à l'échec.
Le spécialiste de la Libye, Nadim Houri, avec Christian Chéneau. En Équateur, le mariage pour tous est entré en vigueur en juillet dernier et ce lundi, ce sont deux activistes lesbiennes les plus connues médiatiquement qui vont se marier. Des dizaines de couples homosexuels les ont devancés dans ce pays très catholique et conservateur où la société est loin d'être apaisée par rapport à ce sujet, Éric Sanson.
Malgré quelques manifestations de l'Église et des évangélistes, le mariage pour tous s'installe peu à peu dans les mœurs en Équateur. Depuis sa légalisation le 8 juillet dernier, plusieurs dizaines de couples homosexuels ont fait une demande de mariage à l'état civil et le mouvement s'amplifie, explique Isabella Ponce, spécialiste des questions de genre du Média GK.
Je crois que les changements se donnent peu à peu, c'est vraiment très lent, mais il y a des signes. Un bon indicateur pour moi, ce sont les marches de l'orgueil gay. Chaque année, il y a de plus en plus de monde, et plus important encore, le public est de plus en plus hétérogène.
Y lo más importante, más heterogéneas.
Approuvé par la Cour constitutionnelle par une seule voix de majorité, le mariage pour tous n'a pas vraiment donné lieu à un débat de société en Équateur, mais plutôt à des attaques que regrette la jeune lesbienne Carla Sandoval.
Je crois qu'il ne faut pas stéréotyper les gens en faveur ou contre le mariage pour tous. Dans ma famille, j'ai une tante âgée très catholique, une autre évangéliste. Ce sont les deux premières qui m'ont embrassée et m'ont soutenue.
Sa compagne, Gabriela Castellanos, se félicite de l'adoption du mariage pour tous et pense que l'Équateur n'évoluera que lentement. Si elle a un enfant, elle pense l'élever sous d'autres cieux.
Dans d'autres pays, le mariage pour tous existe depuis des années et les gens sont habitués à l'école à avoir des enfants avec deux pères ou deux mères. En Équateur, non.
Dans la communauté LGBTI équatorienne, le débat est de savoir s'il faut maintenant demander la légalisation de l'avortement ou l'adoption par des couples homosexuels ou laisser le temps à la société de s'habituer au mariage pour tous.
Correspondance à Quito d'Éric Sanson. En France, c'est le projet de restructuration de l'enseigne Tati qui anime le ministère du Travail depuis ce matin. Les syndicats sont reçus par la ministre Muriel Pénicaud. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Anne.
15 jours après l'annonce de la suppression des 189 postes et de la fermeture de tous les magasins, sauf celui du quartier Barbès à Paris, les syndicats attendent des réponses, notamment sur de possibles reclassements.
Oui, alors Philippe Ginesté, le fondateur de Jiffy et le président du groupe Tati depuis 2017, a annoncé il y a à peine 15 jours la fermeture de 13 magasins et 189 suppressions de postes. Les autres magasins, une centaine environ, passeront sous enseigne Jiffy et seul, en effet, le magasin historique de Barbès, dans le 18e arrondissement de Paris, conserve l'enseigne Tati. La première mauvaise surprise est que ce n'était pas du tout ce qui avait été promis lors du rachat en 2017. Le repreneur avait promis de mettre tout en œuvre pour développer l'enseigne et de ne pas faire de plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, passé le sentiment de trahison pour les syndicats, la deuxième mauvaise surprise est de voir la direction passer en force. Une direction qui, en effet, en plein cœur des vacances d'été, s'est empressée de convoquer la première réunion sur le projet de restructuration. Ça va trop vite, disent les syndicats qui n'ont même pas reçu de leur employeur les documents rassemblant les informations sur les grandes orientations de l'entreprise. Une procédure imposée par la loi, une loi qu'ils invoquent ce matin devant le cabinet de la ministre du Travail. En attendant, les représentants syndicaux ont présenté une motion commune et ont suspendu toute participation aux réunions convoquées par la direction de Tati. Les syndicats réclament d'une part que l'entreprise respecte la loi et qu'elle respecte également les délais, bref, qu'elle laisse passer le mois d'août pour laisser le temps aux élus du personnel et aux salariés d'être informés.
Merci Annabelle Grelier pour vos précisions. Une nouvelle permanence de députés LREM a été taguée la nuit dernière, c'est le député des Yvelines, Didier Bécher, qui a été visé à Versailles. Sur les vitres, on pouvait lire « Les gilets jaunes triompheront » ou encore « C'est ta gueule de vaincu ». « J'exerce mon mandat avec calme et détermination dans le respect des opinions de chacun. Les tentatives d'intimidation n'y changeront rien », a réagi le parlementaire sur Twitter. Une quinzaine de permanences de députés LREM ont été dégradées depuis un mois. Le temps de ce lundi, c'est très nuageux dans le nord-ouest, ciel qui commence à se couvrir sur les reliefs des Alpes, du Massif central et des Pyrénées, du soleil partout ailleurs et les températures cet après-midi. 20 à Cherbourg, 24 à Lille, 29 à Strasbourg, Marseille et Bordeaux, 33 à Lyon. Et ce journal a été préparé avec Benjamin Ducy.